Question d'islam par Ghalib Benchir. Bonjour, aujourd'hui nous parlons d'art, d'objets d'art, de collections, de l'engouement des hommes pour les collections, des objets d'art quels qu'ils soient, et pour notre émission nous parlerons des objets d'art islamiques avec Yannick Lins. Bonjour.
Bonjour.
Je suis extrêmement heureux de vous accueillir. Vous êtes conservatrice en chef et directrice du département des arts de l'islam au Louvre, le 8e département. Juste avant l'émission, j'ai pensé à Hélène Carrère-Dancos qui m'a dit « Moi, je ne féminise pas les titres. Je suis le secrétaire perpétuel de l'Académie, mais vous, vous êtes la conservatrice en chef et directrice du département des arts de l'islam. » C'est vraiment une joie de vous accueillir pour parler des arts de l'islam. Qu'est-ce qu'on appelle art de l'islam ou art islamique déjà, ne serait-ce qu'une définition?
Oui, je pense que c'est important de le préciser parce que ça n'est pas si évident que cela. Pour résumer, je dirais que c'est la production artistique, d'œuvres d'art, du monde islamique, le monde islamique allant, pour ce qui est de vraies productions d'œuvres d'art, de l'Espagne jusqu'à l'Inde. Il faut se rappeler que l'art islamique n'est pas réduit à un art arabe, mais qu'il concerne aussi notamment un art iranien, turc, ottoman, indien. Voilà, donc c'est toutes ces régions du monde et leurs chefs-d'œuvre artistiques que nous présentons dans les salles du Louvre.
Nous verrons tout au long ensemble de l'émission quelques idées reçues sur l'art dit islamique. On pense qu'il est nécessairement religieux alors qu'il est plutôt profane, un art de cour, un art plutôt de ville et non pas nécessairement rural, etc. Mm-hmm. Et une définition même de l'art qui fasse sens. En préparant l'émission, Yannick Lins, j'ai eu cette définition qui est tout ce qui est une production humaine qui ne relève pas de la nature et qui ne tombe pas sous le coup de la science. Je m'étais dit, tiens, voilà une définition.
Oui, ça n'est peut-être pas suffisant, d'après moi, pour définir une véritable œuvre d'art. Bon, bien sûr que c'est compliqué de définir l'art ou une œuvre d'art. Souvent, un objet conservé dans un musée peut acquérir la dimension de chef-d'œuvre artistique bien après son moment de production. Mais si on voulait peut-être résumer tout de même cet art islamique que l'on trouve dans nos galeries, je dirais que ce sont des commandes, majoritairement des commandes de princes, de souverains, d'amateurs de beauté qui ont envie de posséder des œuvres uniques, exceptionnels dans leur forme, dans leur complexité de réalisation, et qui fait que quand on est en phase 2, il est évident qu'une émotion ou qu'un choc passe entre celui qui regarde cette œuvre et l'objet.
Vous avez évoqué la beauté, c'est un produit dont la beauté flatte les sens, suscite cette émotion et s'adresse pas nécessairement à l'intellect, mais ça parle à l'être humain.
Oui, et je fais partie des gens convaincus que pour apprécier l'art, il ne faut pas nécessairement avoir une connaissance de ce qu'est l'objet que l'on regarde, mais je pense que une véritable œuvre d'art exceptionnelle d'emblée, je dirais par sa forme, son décor, suscite une émotion auprès de celui qui le regarde. Et sans vouloir non plus être trop longue, mais j'ai toujours en tête mon premier contact avec l'œuvre d'art, qui n'était pas une œuvre d'art islamique, mais qui est un tableau qui se trouve au Kunstmuseum de Bâle, le Christ mort de Holbein. J'avais 16 ans, je passais devant cette œuvre dans le musée, je n'avais aucune connaissance de ce qu'était l'art et Et puis, je me suis arrêtée devant ce tableau avec les larmes qui me montaient aux yeux. Et tout à coup, pour moi, cette œuvre que je n'analysais absolument pas intellectuellement me renvoyait à mon destin d'être humain et m'émouvait profondément. Et on est là au milieu de ce que peut susciter une œuvre d'art.
Tout comme la mélancolie de Durer ou d'autres. Oui. Pour revenir aux arts islamiques, qu'est-ce qui les distingue en dépit et qui les réunit ou qui leur donne une spécificité propre en dépit de la diversité à la fois de l'étendue terrestre mais aussi de la diversité même des objets?
Je pense que quand on parle d'art islamique, il est toujours important de se souvenir que ce terme d'art islamique a été créé au XIXe siècle par les Européens. C'est une notion occidentale de cet Occident qui regarde l'Orient et qui trouve tout à coup ce terme d'islamique pour finalement parler de toutes ces œuvres venues d'ailleurs, venues de cet Orient plus ou moins lointain. Et en effet, le terme d'art islamique se développe donc de plus en plus dans le vocabulaire des collectionneurs européens du XIXe siècle et fait foi d'une certaine manière aujourd'hui, puisque ce domaine de l'art islamique est devenu aussi un domaine d'études académiques à l'université. Il y a une histoire de l'art islamique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est dans les pays d'où proviennent ces œuvres d'art du monde islamique, que ce soit dans le monde arabe, en Iran ou ailleurs, les Iraniens ou les Arabes ne le voient pas du tout comme de l'art islamique. Et il est intéressant, par exemple, de se souvenir que le premier musée national d'art islamique en Égypte, qui a été créé au début du XXe siècle,
en 1903.
Voilà, s'appelait à l'époque le musée d'art arabe. Et finalement, et qui correspondait réellement à la perception qu'en avaient à ce moment-là les Égyptiens de cet art national, d'une certaine manière. Et finalement, ce terme d'art islamique s'est implanté au niveau international et ce musée au Caire, aujourd'hui, s'appelle aussi le musée d'art islamique. Donc on finit finalement par comprendre que cet art islamique recouvre, comme pourrait le faire l'art européen, cet art islamique recouvre une réalité de civilisation sur plusieurs cultures et sur 12 siècles d'histoire, donc c'est, on peut imaginer du coup la diversité de ces œuvres qui correspondent à cette définition de l'art islamique.
Le changement de nom n'est pas dû au fait qu'à Berlin, il y a un musée d'art islamique quasi contemporain, parce qu'il a été fondé ou inauguré en 1904, et en Égypte, on s'était dit, tiens, dès lors qu'on parle d'art islamique, ça dépasse le cadre exceptionnellement arabe parce que ça serait trop centré ou trop limité.
Le changement de nom pour le musée d'art islamique du Caire s'est fait plutôt après la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est un des rares musées du monde arabe qui effectivement ne conserve pas que des œuvres égyptiennes, mais aussi des œuvres ottomanes et iraniennes qui ont été rassemblées par un des grands directeurs de ce musée d'art islamique entre les années 20 et les années 40, qui a été un Français, Gaston Viette.
Grand arabisant, islamologue, orientaliste, on disait à l'époque. Yannick Lintz, vous parliez des collectionneurs, de cet engouement, de l'intérêt suscité par les arts de l'islam ou les arts islamiques. Je ne suis pas sûr que nos auditeurs sachent que cet intérêt et cet engouement pour la collection d'œuvres d'art islamique a commencé très tôt en France.
Oui, elle a commencé dès le Moyen Âge, d'une certaine manière. Et je me plais souvent à dire aux visiteurs qu'on peut recevoir au Louvre, ou quand j'ai l'occasion de parler de cet art islamique et de son histoire en France, que aujourd'hui, les plus beaux objets d'art islamique, hormis bien sûr au musée du Louvre, vous les trouvez notamment dans les trésors d'église. Ce qui étonne forcément, et en fait, c'est le reflet d'une certaine manière de ces premières collections qui se constituent en Europe sur cet art islamique. Et pourquoi finalement l'aristocratie chrétienne s'est mise à collectionner dès le XIe siècle cet art islamique, non pas dans l'idée qu'il voulait rassembler des œuvres d'art islamique, mais simplement parce que ces textiles, ces soies venues d'Espagne, ces objets en ivoire ciselé venus d'Égypte, ou bien ces magnifiques objets métalliques incrustés de métaux précieux venus de Syrie, étaient en Méditerranée dès le XIe siècle parmi les plus beaux objets de luxe. Aujourd'hui, l'industrie de luxe française est reconnue au niveau international. Au XIe ou au XIIe siècle, les objets d'art dans ces matériaux précieux que je citais, auxquels on peut aussi rajouter le fameux cristal de roche, était parmi les plus convoités par la clientèle internationale de l'époque et la clientèle de l'époque qui avait une fascination pour les très beaux objets étaient les aristocrates chrétiens qui ont commencé par ces trésors d'église à rassembler ces beaux objets et même à les présenter dans ces vitrines qui restent encore aujourd'hui pour la plupart dans nos églises. Donc voilà d'une certaine manière l'origine de cette histoire du collectionnisme de l'art islamique.
Alors en survolant très rapidement la tapisserie des siècles, comme disent certains, dans cette fresque historique, on arrive au milieu du 19e siècle. Et là, il va y avoir une approche un peu plus académique, vous l'aviez dit, et puis ça va être illustré davantage dans les expositions universelles, mais en s'affinant de plus en plus.
Oui, vous avez raison. Il y a bien sûr eu des étapes intermédiaires, et notamment l'époque romantique du début du XXe siècle, la fascination pour l'Orient que l'on découvre à travers Nerval, Chateaubriand et d'autres. Mais c'est vrai que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et notamment dans le dernier tiers du XIXe siècle, il faut se rappeler que nous sommes dans une Europe des nations qui construit aussi ses empires coloniaux. Et ce contexte, je dirais, d'une ouverture de l'Europe à l'ère industrielle et aux relations internationales, je dirais, d'État à État, crée un contexte notamment de promotion, je dirais, des productions industrielles européennes à travers les expositions universelles. Et ces expositions universelles deviennent du coup l'occasion de grands événements. C'est d'une certaine manière les premières opportunités de grandes expositions qui permettent de faire venir de tous ces pays des empires coloniaux et au-delà parfois de magnifiques œuvres qui deviennent les vitrines de ces cultures que l'on découvre. Donc ce n'est pas perçu en tant que tel dans ces années 1870-1880 comme des expositions d'art islamique, mais c'est la fascination pour ces orients lointains et que l'on veut absolument montrer dans ces expositions, puisque l'un des principaux intérêts à ce moment-là de ces collectionneurs et de ces organisateurs d'expositions, c'est aussi d'en faire une source d'inspiration pour les artisans des grandes manufactures européennes, voilà, de ces arts que l'on appelait à l'époque les arts industriels et qui étaient notamment reconnus dans ces expositions. l'exposition universelle par les grands objets, les grands défis de création artistique de ces manufactures.
Et on a même voulu reconstituer non seulement la rue du Caire ou tel appartement, ou telle maison de Damas, mais aussi l'ambiance d'une manière générale et bien entendu ces objets d'art figurés dans ces appartements.
Oui, et c'est aussi un aspect intéressant de cet engouement énorme pour l'orientalisme ou pour ces arts de l'islam à cette époque-là, c'est qu'on a envie de les montrer dans des reconstitutions d'intérieur, et c'est un vrai parti pris, je dirais, d'appropriation de ces objets à l'époque, que ce soit dans ces grandes expositions où effectivement on se paye le luxe de reconstitution de rues entières de certaines villes d'Orient, mais aussi chez les collectionneurs privés de l'époque qui créent dans leurs intérieurs français ou européens des salons à l'oriental ou des bureaux à l'oriental. Donc c'est autant la fascination des objets que de ce qu'ils peuvent évoquer comme le sentiment du décor et du contexte que l'on amène avec eux et de cet environnement à l'oriental qui devient donc un véritable engouement à l'époque.
Bien, il va y avoir donc des collectionneurs, et qui dit collectionneur dit le fait de procéder à l'acquisition de ces objets d'art. Par qui peut-on commencer si nous devions aborder une grande figure de ces parmi ces collectionneurs?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc cette époque de la deuxième moitié du 19e siècle nous ramène à une époque où on est à la fois collectionneur et on peut devenir conservateur d'une collection publique. Aujourd'hui, c'est inimaginable, mais donc quand vous me demandez de citer une figure un peu emblématique, j'ai quand même envie d'évoquer Gaston Mijon.
Qui vient à l'esprit en premier.
Voilà, qui est emblématique parce que il a quand même joué un rôle absolument considérable dans la constitution de cette collection du musée du Louvre et il est à la tête au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, de cette première section dite à l'époque des arts musulmans. Hein, le mot islamique n'est pas encore à ce moment-là adopté.
Qui est plus juste d'ailleurs du point de vue de la grammaire, parce que exactement. L'islamique, ça qualifie ce qui n'est pas animé d'une vie.
Exactement. Et Gaston Mijon, donc, bien sûr, a joué ce rôle considérable de promotion de cette collection publique, a créé le premier cours d'art musulman à l'école du Louvre, donc une chaire d'art musulman, a publié un premier ouvrage qui a marqué aussi ce domaine, mais c'est d'abord et avant tout lui-même un collectionneur d'art islamique, organisateur d'expositions. Et je dirais qu'autour de ce personnage emblématique, bien sûr que la société française de l'époque, nous sommes dans l'héritage du Second Empire, au début de la Troisième République, je dirais que la classe dominante à l'époque est cette haute bourgeoisie française à laquelle appartient Gaston Mijon, et donc tout le monde se connaît un peu dans ces milieux parisiens, donc bien sûr qu'il initiera toute une série d'autres collectionneurs, pas forcément au départ spécialisés sur les arts musulmans ou les arts islamiques, mais qui vont progressivement s'intéresser à ce domaine. Et on peut citer notamment Raymond Koechlin aussi. Et c'est une période qui me fait rêver quand j'y pense, parce que on se rend compte finalement dans le parcours de ces personnages combien cet art islamique était véritablement à la pointe du collectionnisme à ce moment-là, puisque Raymond Koechlin est à l'origine de la création de la Société des Amis du Louvre. Donc il a été le premier président de la Société des Amis du Louvre, encore aujourd'hui. C'est un poste prestigieux et qui symbolise à lui seul seule tout le la dynamique du collectionnisme français. Donc imaginez que le fondateur de cette société ait été un grand collectionneur d'art islamique montre la place essentielle qu'occupait dans ces années 1870-1880 jusque dans les années 1910 ce domaine.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Yannick Lins, conservatrice en chef et directrice du département des arts de l'islam, le 8e département du Louvre, pour parler des collections, des collectionneurs eux-mêmes d'objets d'art islamique. Vous en avez évoqué deux, Gaston Mijon et Raymond Koechlin. C'est une famille qui vient d'Alsace, de Mulhouse. Et donc Raymond Koechlin était aussi un collectionneur et membre fondateur, président, premier président de la Société des Amis du Louvre et qui avait un intérêt réel et une passion pour les arts islamiques.
Et ça me permet aussi d'évoquer cette importance des collectionneurs alsaciens et allemands aussi dans l'art islamique. Et nous avons l'occasion actuellement de collaborer avec Nouran Ben Azouna de l'Université de Strasbourg, qui a la chaire d'histoire de l'art islamique. Et nous sommes en train de découvrir avec beaucoup de passion cette spécificité du collectionnisme alsacien et de cette fascination alsacienne pour l'Orient à la fin du 19e et au début du 20e siècle.
Alors, dans cette galerie, cette fois-ci de portraits de collectionneurs, il y a Jules Massier.
Oui, qui est aussi tout à fait caractéristique de ces personnalités de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, Jules Massier, comme beaucoup, va être fasciné par des objets qui sont essentiellement ces carreaux qui forment les décors architecturaux de beaucoup de monuments dans le monde islamique et qui vont être les premiers objets collectionnés par ces collectionneurs de la fin du 19e siècle. Ils s'intéressent aussi beaucoup aux tapis qui deviennent aussi, je dirais, un enjeu de collection à ce moment-là. Et puis, il va contribuer aussi à organiser ou à aider à organiser toutes ces expositions que l'on voit apparaître à Paris sur l'art islamique, soit au pavillon Marsan qui est au Louvre, donc au tout début du XXe siècle.
Qui était le lieu, des arts décoratifs.
Oui, tout à fait. C'est un bâtiment qui est tout au bout de l'aile du Louvre, où se trouve aujourd'hui encore le musée des arts décoratifs, côté rue de Rivoli, et où effectivement Jules Massier et d'autres ont contribué à promouvoir au lendemain des expositions universelles ces arts de l'islam.
Oui. Alors, je pensais que nous abordions la question des tapis en fin d'émission, mais pour en parler, puisque ce sont des objets un peu particuliers, très fragiles. Il ne faut pas les exposer à la lumière. Et donc, il y en a au moins 3 ou 4 tapis d'importance historique inégalée, inégalable. Le tapis de Cracovie.
Oui, alors c'est effectivement, ça fait partie des chefs-d'œuvre de la collection de tapis du Louvre, qui malheureusement, comme vous le dites, n'est pas tout le temps visible à cause de sa fragilité. Il faut savoir que ces tapis, nous les présentons pendant 6 mois, et puis ensuite, il faut, pour préserver leur couleur notamment, les laisser à l'ombre pendant 6 ans. Donc le tapis de Cracovie notamment, nous n'avons pas l'occasion malheureusement de le montrer souvent, mais c'est un tapis tout à fait caractéristique de ces chefs-d'œuvre, de ces productions iraniennes, donc du début de la grande production des tapis.
Et pourquoi on l'appelle le tapis de Cracovie ? Parce qu'il a transité par Cracovie.
Alors, plus précisément parce que son décor correspond effectivement, est emblématique d'un certain modèle de tapis. Donc, dans les collections de tapis, on parle aussi des tapis Holbein, des tapis type Cracovie. Donc, ça correspond au décor typique d'un tapis très connu à la cathédrale de Cracovie. Et ça permet aussi de rappeler que ces tapis, et notamment notre tapis de Cracovie, font partie de ces collections, encore une fois, qui ont transité essentiellement par les cathédrales et les églises et qui sont arrivées, en tout cas, au Louvre par donation, souvent, de ces évêchés qui n'avaient plus les moyens de le préserver. Donc, c'est vrai qu'on en connaît très peu des tapis du modèle du tapis de Cracovie. Hein. On en connaît 5 ou 6. Il y en a peut-être d'autres, mais on en connaît 5 ou 6. Et donc, on a la chance, effectivement, d'avoir ce tapis qui est gigantesque, hein, qui fait plus de 7 mètres de long sur 5 mètres de haut. Donc, c'est des tapis qu'il faut aussi imaginer dans des grands espaces et qui ont souvent, comme on le pense pour les tapis de Cracovie, été faits sur commande directe pour les archevêchés européens.
En revanche, le tapis de Mantes est prosaïquement appelé ainsi parce qu'il était à la sous-préfecture de Mantes, mais il a été donné, me semble-t-il, par la comtesse du Barry. Et on l'appelle le tapis de Mantes pour ça uniquement.
Oui, oui, parce qu'il est effectivement originaire de cette ville au départ. Donc les titres que l'on donne au tapis ne sont pas toujours révélateurs de ce qu'il représente dans l'histoire non plus de production de ces tapis.
Et le Sangusco, au nom évocateur, ce n'est qu'une appellation finalement d'un tapis d'Asie centrale.
Oui. Oui, tout à fait.
Bien, alors Yannick Lin, si vous voulez bien, nous revenons encore aux collectionneurs, à ces grandes familles. Il y a le baron Alphonse Delors de Gléon et sa veuve qui donnera la collection par la suite au Louvre.
Oui, c'est intéressant pour la collection du Louvre. C'est bien sûr une collection essentielle parce que cette collection rentre majoritairement par le legs de sa veuve, la baronne Delors de Gléon, en 1914. Et ce qui est intéressant avec ce legs, c'est que ils lèguent leur collection, là aussi majoritairement formée de grands carreaux de faïence provenant de grands monuments islamiques, mais ils lèguent aussi à l'époque 100 000 francs parce que ils avaient le souci de présenter ces collections au Louvre. Et donc pour nous, quand on évoque au Louvre le baron Delors de Gléon et sa femme, c'est à la fois l'image d'un grand collectionneur. Alors ces grands collectionneurs de la fin du 19e qui eux ont la chance de faire ce voyage en Égypte, parce que on a du mal aujourd'hui peut-être à imaginer que le Caire était une des villes qui attirait énormément certains milieux bourgeois français qui allaient d'abord pour y faire des affaires ou pour y travailler. C'était le cas du baron Delors de Gléon qui était ingénieur des mines et qui allait au Caire pour investir dans les milieux miniers et par la suite dans les banques. Donc, il part en 1869 au Caire et il est fasciné par la découverte. C'est sa découverte de l'Orient par la ville du Caire. Hein. Je rappelle quand même que il y a ce qu'on appelle encore aujourd'hui le Caire islamique, donc ce cœur historique de la capitale créée au Xe siècle par les Fatimides. Et donc, ces Français comme Delord de Gléon qui arrivent en Égypte dans les années 1870 pour travailler, s'y installent et s'y installent durablement et se fait construire une maison dans le style oriental et va donc, à partir du Caire, qui était à ce moment-là aussi la place sans doute la plus importante dans le monde méditerranéen du marché de l'art islamique, puisque pour être collectionneur, il faut savoir où acheter les objets et le Caire était la bonne place pour acheter ces objets.
Mais parce qu'il y avait un bon réseau aussi.
Oui, y compris les collections qui venaient d'Iran. Les plus beaux objets iraniens transitaient à l'époque par le Caire. Et on raconte même qu'il était tellement fasciné par ces objets qu'il a fini même par engager des agents qu'il envoyait par exemple au Yémen. Et nous avons la chance au Louvre de posséder des objets de l'époque mamelouque, donc autour du 14e, 15e siècle, de cette grande dynastie qui régnait depuis le Caire.
Et d'esclaves affranchis.
Exactement. Et ces mamelouks régnaient sur une bonne partie du Proche-Orient et notamment sur le Yémen. Et la dynastie yéménite de l'époque, les Rassoulides, s'était donc soumis aux mamelouks et produisait de magnifiques objets en métal incrusté. Et donc, notre baron Delord de Gléon envoyait ses agents au Yémen et nous possédons comme ça parmi les plus beaux objets de type mamelouk, d'époque mamelouk du Yémen, un grand plateau de 80 cm de diamètre, par exemple. Et donc, Delord de Gléon rentre en France 20 ans après son installation et rassemble sa collection et met dans le testament cette future donation au Louvre. Et pour le département des arts de l'islam, c'est un moment très important, l'arrivée de cette collection. Bon, 1914, vous imaginez bien que la France est occupée par autre chose que par les projets d'installation de collection au Louvre. C'est la guerre, donc au Louvre aussi tout s'arrête. Mais dès l'après-guerre, dès les années 1920, ce projet de nouvelle présentation des collections d'art musulman, pour
à ce moment-là, on disait ainsi, oui.
L'expression de l'époque, se met en place et en 1922, on inaugure pour la première fois de vrais espaces dédiés à ces collections grâce à l'argent amené par le legs de Delord de Gléon en plus de sa collection.
Et vous pensez, Yannick Lins, que la dotation des 100 000 francs de l'époque, c'était aussi pour, dit-on, j'ai cru comprendre cela, rendre l'instruction publique, enfin sensibiliser le public à l'art d'une manière générale et aussi à l'art islamique.
Oui, c'est pas le cas forcément de toutes les donations. Beaucoup de collectionneurs ont envie, et c'est toujours pour un conservateur très émouvant d'entendre ça de la part du futur donateur, cette envie de devenir d'une certaine manière immortel à travers sa collection. Mais je dirais que c'est évident que la préoccupation de ces collectionneurs, et c'est le cas de Delord de Gléon qui le met dans son testament, c'est l'idée de faire partager avec un maximum de personnes ce goût pour les beaux objets. Donc c'est vrai que c'est aussi à travers cette donation le goût du partage. Et c'est l'époque où la Troisième République a une politique éducative très active dans le domaine des musées et de la sensibilisation à ces objets d'art. Et c'est ce qui fait aussi que l'État va du coup poursuivre cette volonté de ses collectionneurs et voudra rendre accessible, c'est pour ça que le Louvre réalisera un très bel espace en 1922 et essayera aussi, en même temps, d'envoyer des collections dans d'autres musées en France pour ne pas simplement en faire profiter les franciliens, mais pour partager sur l'ensemble du territoire, selon ce principe d'égalité nationale, ces objets de collection.
Nous pourrons encore ajouter un autre collectionneur, Georges Marteau, par exemple.
Alors, c'est des noms qui, pour nos auditeurs, doivent tous être forcément complètement inconnus. Et en même temps, quand vous les prononcez, chacun révèle une personnalité particulière et des aspects particuliers de la constitution de leur collection. Georges Marteau fait partie, au tout début du XXe siècle, de ces gens dont on n'imaginait pas forcément, même s'il fait partie de cette fameuse bourgeoisie parisienne de la Troisième République, mais on n'imaginait pas forcément que c'est quelqu'un qui pouvait être fasciné par l'art islamique. Il héritait d'une entreprise familiale qui fabriquait des cartes à jouer, les fameuses cartes Grimaud. Si certains collectionnent les cartes à jouer, c'est une marque célèbre dans l'histoire française. Donc il héritait de cette entreprise et finalement, à travers son activité professionnelle, il avait une fascination pour le papier. Et c'est à travers cette fascination pour le papier qu'il aura l'occasion d'être initié plutôt à l'art de la miniature persane, donc cette grande école de peinture miniature qui fait aussi partie de cet art islamique. Et donc il ne sera jamais fasciné par les objets en trois dimensions, par les objets en métal, par les décors architecturaux. Lui sera fasciné par cette peinture miniature qu'il va donc collectionner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi comment se développe cet intérêt et ce goût de ces collectionneurs. Ils ne sont pas non plus, comme on peut l'imaginer, exclusifs. C'est pas parce qu'ils achètent de l'art islamique qu'ils n'achèteront rien d'autre. Et Georges Marteau, par exemple, lui, collectionnera en même temps que ses peintures miniatures indiennes ou iraniennes, des papiers japonais, par exemple. Donc il sera autant fasciné par cet art japonais que par cet art islamique. Et il sera donc finalement, il deviendra de plus en plus actif dans la promotion de cette partie de l'art islamique et il organisera dans ce fameux pavillon Marsan que j'évoquais tout à l'heure, qui est un bâtiment aujourd'hui appartenant au Musée des Arts Décoratifs, une première exposition en 1912 de ces miniatures persanes. Aujourd'hui, quand on parle d'art islamique, je suis sûre que même sans s'y connaître, on pense assez rapidement à ces pages de manuscrits peintes qui sont caractéristiques de cet art islamique. Mais à l'époque, c'était absolument inconnu puisque tout le monde était fasciné par le décor architectural, par les objets qu'on avait découverts dans les fameuses expositions universelles des produits de l'industrie. Et donc, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est finalement par la promotion de cet art particulier à l'exposition de 1912 que va progressivement apparaître ensuite d'autres générations de collectionneurs dans ce domaine. Et j'aimerais, pour finir, préciser que nous préparons une exposition sur Georges Marteau, puisqu'il a légué lui aussi toute sa collection d'art islamique au Louvre. Et donc, en juin prochain, au sein du département, nous aurons l'occasion d'évoquer ce fascinant collectionneur.
Thank you.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Yannick Lintz, conservatrice en chef et directrice du département des arts de l'islam, le 8e département du Louvre. Cher Yannick Lintz, je ne résiste pas, si vous me permettez l'expression, de profiter de votre présence puisque vous avez une telle connaissance de ces collectionneurs, leur biographie, de vous demander de nous en rajouter encore un ou deux. Je pense par exemple à Jean-David Veil ou à d'autres.
Oui, Jean-David Veil, qui, je dirais, à l'image de Gaston Mijon, sera l'un de ses successeurs et deviendra la grande figure des arts de l'islam du Louvre dans les années 70. Donc nous lui devons énormément aussi sur la connaissance de ces objets et grâce, je dirais, à sa collection propre, mais aussi à son réseau de connaissances des collectionneurs, à de nombreuses donations alors qu'il était à la tête de cette collection au Louvre. J'aimerais aussi peut-être évoquer, parce que vos auditeurs pourraient penser que tout ça est un phénomène très parisien, et j'ai envie d'évoquer un de nos autres grands donateurs caractéristiques de ces époques de collectionnisme d'art islamique, qui est Pascal-Marie Piette-Lataudry. Piette-Lataudry est une grande figure dans la ville de Niort. J'aime bien évoquer ce personnage parce qu'il symbolise, je dirais, une vraie tradition française en province, comme on disait encore il y a quelque temps, de cette fascination qui effectivement ne se limitera pas à Paris. Alors on pense à des villes comme Lyon qui sont assez connues aussi sur ces grand collectionneur d'art islamique et le musée des Beaux-Arts d'aujourd'hui en témoigne. Mais Niort, c'est peut-être quelque chose de plus étonnant et inconnu pour vos auditeurs. Et donc ce monsieur Piette-Lataudry n'aura jamais la chance de voyager au Caire ou d'y habiter ou de faire un voyage vers l'Orient de l'Est. Mais il aura la chance de venir de temps en temps pour son travail à Paris et de faire la connaissance à travers des marchands parisiens, de collectionneurs. Et comme c'était, encore une fois, à l'époque, nous sommes toujours à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, l'art islamique était très à la mode. Aujourd'hui, on se doit de collectionner l'art contemporain essentiellement occidental. À l'époque, on se devait de collectionner l'art islamique. Et donc, Piette-Lataudry va faire la connaissance de ce milieu de collectionneurs et va donc se faire conseiller et acheter des œuvres. Il va, ça fait partie de ses goûts personnels qu'on n'explique pas toujours, mais il va notamment être fasciné par les objets en métaux et donc il va essentiellement collectionner des bassins, des chandeliers qui viennent d'Iran notamment ou du Caire, des chandeliers ou des objets qui ont été produits entre le 11e siècle et le 15e siècle. Et donc, lui aussi fait un testament et donnera certaines pièces au musée du Louvre, que l'on voit aujourd'hui dans nos salles, et d'autres au musée de Niort, au musée donc des Beaux-Arts de Niort. Et c'est intéressant aussi de se dire qu'en allant à Niort, vous pourrez découvrir de très beaux objets d'art islamique, absolument improbables a priori dans cette ville.
Comme notre émission s'articule essentiellement sur les collections et les collectionneurs, plus proche de nous, il y a la collection Khalili du juif iranien et qui est aussi considérable et très riche d'objets d'art islamique.
Tout à fait. Alors c'est une collection qui lui appartient encore et qui est conservée à Londres. C'est intéressant que vous évoquiez son nom parce que pour deux raisons. D'une part parce qu'effectivement il y a une certaine tradition de juifs iraniens à être fascinés par l'art islamique, parfois aussi à en être les promoteurs ou les marchands, si on reconstitue, si l'on essaye de reconstituer l'histoire du marché de l'art islamique dans ces périodes de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle, on croise la route de nombreux Iraniens ou d'Arméniens, enfin d'Iraniens juifs ou d'Arméniens qui ont contribué à ça. Alors Khalili, effectivement, est quelqu'un de notre époque, mais ça fait quand même une trentaine d'années qu'il réunit une collection exceptionnelle, une collection qui, comme beaucoup de ses collections privées, ont des thèmes favoris. Il s'intéresse pas à tout l'art islamique non plus. C'est vrai qu'il s'intéresse essentiellement à l'art iranien. Il a énormément acheté de peintures iraniennes ou en tout cas de manuscrits. Il s'est énormément intéressé aussi, maintenant un peu moins, mais à ce qu'on appelle l'art Qadjar, c'est-à-dire l'art iranien du 19e siècle. C'est sans doute l'une des collections les plus importantes dans ce domaine. Pour avoir été en contact avec lui récemment, je sais que pour l'instant, et ça fait partie de la vie d'un collectionneur aussi, il fait une sorte de pause. C'est vrai que il est un peu à la recherche de nouvelles passions dans ce domaine de l'art islamique. Voilà, mais le résultat est que cette collection réunie aujourd'hui est absolument exceptionnelle. Et Monsieur Khalili a aussi, je dirais, le sens du partage, puisque il prête souvent ses œuvres à de nombreuses expositions. Il permet à des spécialistes de publier ses collections. Donc c'est aussi une manière de nous faire connaître cette collection, même si on ne peut pas la voir constamment.
Oui, alors bien entendu, nous ne pourrons pas aborder et passer en revue toutes les familles et tous les collectionneurs. Pour revenir au département que vous dirigez, Yannick Lintz, le département des arts de l'islam, un peu, on a vu un peu sa proto-histoire et puis ça, durant tout le XXe siècle, il y avait deux expositions importantes dans les années 70 qui ont été un peu le prélude d'une exposition permanente en quelque sorte. Alors il y a celle de 1871 à l'Orangerie des Tuileries et celle de 1977 au Grand Palais.
Oui, c'est intéressant que vous évoquiez ces deux expositions qui sont, donc c'est l'époque aussi de Jean-David Veil, c'est cette époque des années 70 où parfois, quand on retrace la longue histoire de ces collections, on a le sentiment que c'est une époque moins créative que l'époque que nous évoquons beaucoup ici, qui est l'époque du début du XXe siècle. Et pourtant, ces deux expositions marquent effectivement un tournant dans l'intérêt qu'on peut avoir dans le patrimoine français sur ces collections, puisque c'est notamment l'exposition de 1977 est une première tentative d'identification de l'art islamique en France et de réunir effectivement sans autre volonté que de faire comprendre ce qu'est l'art islamique, cette diversité des collections françaises, et c'est une manière effectivement de révéler cet art islamique comme appartenance à notre patrimoine national. Et je dirais que le tournant historique pour moi de ces expositions, c'est peut-être sur cet aspect-là qu'il est important. C'est qu'on n'est pas forcément, quand on parle d'art islamique, sur des histoires lointaines, mais on est sur un héritage national aussi de notre propre histoire à travers ces collectionneurs notamment.
Yannick Lintz, nous approchons vraiment du terme de l'émission. Et si vous deviez donner envie aux auditeurs d'aller visiter le 8e département du Louvre, le département des arts islamiques, qu'est-ce que vous leur diriez? J'ai cru comprendre que la pyxide, donc ce vase ou ce coffret, la pyxide d'Al-Mughira serait, j'utilise le conditionnel, mutatis mutandis, un peu comme la Joconde. C'est d'une valeur inestimable et elle n'a aucune valeur marchande. Et vous l'avez toujours, donc elle est exposée.
Oui, vous avez raison. C'est un des chefs-d'œuvre du département que l'on découvre pas loin de l'entrée du département quand on arrive dans ce nouvel espace qui a ouvert maintenant il y a 5 ans, qui est en lui-même, j'aime aussi à le rappeler, les visiteurs le ressentent fortement, un espace de respiration dans ce Louvre maintenant quand même très fréquenté. Et donc cette boîte, si on veut employer un mot plus simple, Pixide, cette boîte en ivoire complètement ciselée en transparence et fait partie de ces chefs-d'œuvre effectivement exceptionnels que le département a la chance de posséder. C'est, il faut le savoir aussi, une des premières acquisitions faites par le Louvre en 1895, parce que il y a certes la chance d'avoir de nombreuses donations de tous ces collectionneurs qu'on a évoqués, mais aussi une volonté du Louvre d'acheter des œuvres. Et cette boîte, si vous venez la voir, vous découvrirez donc une œuvre réalisée en Espagne au XIe siècle et qui, pour moi, est très symbolique aussi d'une définition de l'art islamique que l'on tentait de formuler en début d'émission, parce que j'adore montrer cette œuvre aux visiteurs pour leur expliquer que l'art islamique n'est pas uniquement un art religieux, que c'est aussi un art qui aime représenter la figure humaine et qui évoque, je dirais, à travers tout le déploiement du décor et des images, l'histoire de la rivalité de deux princes de cette époque-là, on pourrait dire d'une certaine manière, le prince de Cordoue et le prince de Bagdad, rivaux pour la succession au trône. Donc c'est une œuvre qui est absolument exceptionnel dans son modelé et sa sculpture d'un matériau quand même très dur à sculpter, et qui en plus révèle encore une fois la fonction de ces œuvres, qui est aussi, comme pour l'art européen, d'évoquer de la propagande politique, puisque c'était la commande d'un souverain.
Merci infiniment, merci Yannick Lins, il y aurait eu beaucoup de choses à dire sur ces objets d'art fascinants. C'était question d'islam. Aujourd'hui, c'était avec Yannick Lins, la collection et les collectionneurs d'arts islamiques. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abgral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Valérie Lavalard. Et la réalisation est toujours assumé par Franck Lilin.